Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. La métropole aurait tranché sur deux dossiers brûlants, la zone à trafic limité et la rue Grenette. Grosse frayeur hier en bas des pentes de la Croix-Rousse, où deux immeubles menaçaient de s'effondrer. Incertitude sur le bouchon alsacien, ouvert en octobre dernier dans les anciens locaux du mythique restaurant en Cazeneuve. Il vient d'être placé en redressement judiciaire. La presse lyonnaise serait-elle en crise? Pas moins de 4 supports sont en difficulté. BFM Lyon qui pourrait fermé à la fin de l'année en l'absence de repreneur, le groupe Ebra qui détient plusieurs titres de presse quotidienne, dont le Progrès, là on parle de 400 suppressions de postes au niveau du groupe. Pour compléter le tableau, Mac de Lyon et le Journal des entreprises, une situation catastrophique qui fait réagir le club de la presse de Lyon. Son président Jean-Pierre Vacher sera notre invité. Et puis c'est un duo de choc pour un monument du théâtre français. Thomas Joly et Laetitia Guédon ont été nommés à la tête du prestigieux TNP à Villeurbanne.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Grand Lyon aurait donc tranché sur deux dossiers, la zone à trafic limité et la rue Grenette. Véronique Sarcelli, la présidente de la métropole, refuse de faire de Lyon une ville fermée et annonce un net assouplissement de la ZTL. Elle fonctionnera désormais à vitesse variable, uniquement la nuit en semaine, de 19h à 5h du matin, et tout le week-end, du vendredi après-midi 15h au lundi matin 5h. Autre arbitrage très attendu, la réouverture de la rue Grenette à la circulation, programmée pour septembre. Une décision prise malgré une consultation locale menée par la ville de Lyon, selon laquelle 72% des votants s'y opposaient. Véronique Sarcelli assume ce choix et promet une solution tenable, travaillée main dans la main avec les services de la métropole et le Citral pour le passage des bus. À suivre donc. Grosse frayeur en bas des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Hier, deux immeubles menaçaient de s'effondrer. Une cinquantaine d'habitants et plusieurs commerçants ont dû plier bagages en urgence. En cause, des mouvements bâtimentaires suspects repérés entre les numéros 10 et 12 de la rue. Un mur porteur mitoyen menace de céder. Une fragilité potentiellement liée à des travaux. 33 logements ont été vidés de leurs occupants, pris en charge par la ville. Sur place, 25 sapeurs-pompiers ont été engagés pour sécuriser les lieux. Une procédure d'urgence pour péril imminent a été lancée. Et un expert est attendu ce matin pour inspecter le sous-sol croix-roussien, souvent comparé à un gruyère. En attendant, la rue Terme reste totalement bouclée. Si vous circulez dans le secteur, notez que les lignes de bus C3 et C18 ont dû être déviées. Le bouchon alsacien, ouvert en octobre dernier dans les anciens locaux du mythique restaurant Cazeneuve, vient d'être placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon. Une information révélée par nos confrères de Lyon Décideur. Une démarche préventive et assumée par ses dirigeants, Frédéric Laffay et Jackie Gallman, l'emblématique ancien directeur de la brasserie Georges. Si les clients ont été au rendez-vous tout l'hiver, le chiffre d'affaires de 700 000 euros n'a pas suffi à éponger à des coûts de lancement plus élevés que prévu, notamment plombés par l'énergie. Pas de panique pour autant, les patrons se veulent rassurants. Le passif auprès des fournisseurs reste très faible et aucun licenciement n'est envisagé. L'objectif est clair, restructurer l'activité pour la pérenniser.
Lyon Demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
Bonjour Jean-Pierre Vacher.
Bonjour Gérald.
Président du Club de la Presse de Lyon, également directeur de Lyon Décideur, très impliqué, on l'aura compris, dans les médias et dans la presse locale. Une presse locale qui a beaucoup de difficultés en ce moment, avec pas moins de 4 médias qui sont en difficulté. BFM Lyon, Le Progrès, avec évidemment sa holding Ebra, mais aussi Mac de Lyon et également le Journal des entreprises. Ce qui a marqué surtout les esprits la semaine dernière, c'est cette fermeture annoncée pratiquement pour la fin de l'année pour BFM Lyon, sauf repreneur. Ça veut dire quoi exactement?
C'est une décision de groupe, au niveau national, de nouvel actionnaire de BFM TV RMC, qui fait un choix un peu brutal et un peu incompréhensible, parce qu'à partir du moment où il y avait une volonté de développer un réseau de télévision locale autour d'une chaîne nationale, arrêter aussi vite, puisque BFM Lyon a tout juste 7 ans d'existence. J'avoue que c'est assez incompréhensible, d'autant plus que je dirais le travail qui a été fait par l'équipe est assez remarquable, quoi. Une équipe très très impliquée. On l'a encore vu, comme tous les médias locaux, à l'occasion de la campagne des municipales et des métropolitaines. Donc oui, c'est assez incompréhensible.
Pourquoi ces grands groupes, donc CMA Média, on parle de celui-ci pour BFM Lyon, pourquoi ils investissent finalement? Alors c'est pas tout à fait eux qui ont investi au départ, parce que c'était SFR, donc il y a eu un changement.
Oui, c'était Altice. Oui, à l'époque.
Pourquoi ces grands groupes veulent se détacher du local? Et finalement, on a connu ça ça dans les années 90-2000 avec les radios dites périphériques à l'époque qui se désengageaient déjà de leur décrochage locaux. Qu'est-ce qui explique ça à votre avis?
Alors je dirais l'histoire des médias parisiens, alors on dit nationaux parfois mais souvent c'est parisien, qui investissent le local, le régional. Voilà, à un moment donné je pense qu'ils se disent bah oui, il y a du business à faire, il y a de la publicité à ramasser, à prendre. Puis au bout de quelques années, quand ils s'aperçoivent que c'est plus compliqué, souvent ils s'arrêtent, ils partent en race campagne. On a connu ça aussi avec M6, hein, qui avait développé un réseau d'antennes locales, des décrochages, et puis qui s'arrêtait au bout de quelques années. Et même, je dirais, dans la presse écrite, hein, moi-même, j'ai commencé fin des années 80 à Lyon Figaro. En même temps, il y avait Lyon Libé s'est arrêté au bout de 6 ans. Lyon Figaro a tenu presque une vingtaine d'années. C'est un éternel mouvement, je dirais, les groupes nationaux parisiens décident de se déployer, d'investir le territoire régional, local, quand ils pensent qu'il y a du business à faire. Et puis, quand ils s'aperçoivent que c'est un peu plus compliqué, ben souvent, c'est des mouvements de repli. Et on arrête brutalement les expériences.
Alors on dit que le marché de la publicité actuellement est morose. Est-ce qu'il est morose ou est-ce que finalement il a muté tout simplement?
Oui, je crois que c'est une transformation en profondeur, un bouleversement complet. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché publicitaire, il est présenté majoritairement par on va dire deux grands annonceurs hein, qui s'appellent Google et qui s'appellent Meta. Malheureusement, bah, les médias classiques, tous les autres, hein, qu'il s'agisse de presse écrite, de radio, d'audiovisuel, de télévision, se partagent le reste du gâteau. Donc c'est compliqué, sauf avoir une stratégie de recette qui est diversifiée, pas uniquement autour de la pub, mais autour des abonnements, autour de diversification, autour de l'événementiel. C'est sûr que c'est compliqué de ne vivre que de la publicité.
En tant que président du club de la presse, est-ce que quel message vous avez envie de dire peut-être finalement à ceux qui font les lois, hein, nos députés, nos sénateurs? Est-ce qu'il n'y a pas une solution, je dirais justement, pour ponctionner ces GAFAM, comme on les appelle?
Oui, certainement. Puis souvent aussi, les contenus hein, fabriqués, contenus éditoriaux fabriqués par les médias locaux de proximité. Déjà, nous, ce qu'on a souhaité exprimer, hein, c'est notre solidarité et notre total soutien avec les rédactions concernées. Hein, voilà, on est à leur côté. On a bien conscience des moments compliqués qu'ils vivent et donc soutien, solidarité. On a eu à un moment donné tout un débat sur l'exception culturelle française. Je pense que oui, en termes de médias, parce qu'il faut bien avoir conscience que là, autour de la pluralité, du pluralisme des médias, de l'existence de nombreux médias de proximité, c'est aussi l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Hein. Une démocratie est vivante et se porte bien si elle a des médias nombreux, pluralistes, qui sont là pour la défendre. Et on voit bien que tous les débats autour des fake news, des ingérences étrangères, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et on vit à une époque où tout le monde peut être son propre média. Donc il faut pas confondre influenceurs et journalistes. On fait pas le même métier. On a besoin, oui, d'être soutenu. Et je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire, indispensable, qui doit se faire à tous les échelons. Hein. Le sujet concerne tout le monde, les citoyens, les collectivités locales aussi. Puis les élus nationaux, le Parlement, le gouvernement, tout le monde est concerné par ça.
Du côté de BFM Lyon, ce qui a été dit, c'est que s'il y avait un repreneur, évidemment, la chaîne pourrait continuer. Vous, ce repreneur providentiel, vous y croyez, vous qui avez dirigé TLM pendant quand même quelques années, ces difficultés, vous les avez connues également. Comment on trouve un repreneur aujourd'hui? Comment on explique à un investisseur qu'il faut investir dans BFM Lyon ou TLM ou un autre nom, quoi?
Bah, moi, je crois par-dessus tout à la force des médias indépendants et de proximité. Parce qu'encore une fois, quand monsieur, madame, tout le monde sont au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la planète en temps réel, ils ont aussi envie qu'on s'intéresse à leur vie quotidienne et qu'on leur dise ce qui se passe au coin de la rue chez eux. Je crois vraiment à la pertinence et à la force des médias de proximité. Après, je dirais qu'on a quand même la chance d'être ici à Lyon sur un bassin à la fois de population et bassin économique et puissant. Donc je pense qu'il y a vraiment place, oui, pour un média médias télévisés, digital, à Lyon, clairement, voilà, je pense qu'il y a un potentiel, même si le voilà, il y a ce bouleversement sur le marché de la publicité, mais je pense qu'il y a place, pour une télévision locale. Effectivement, TLM a existé pendant 30 ans. Alors c'était une autre époque, hein, évidemment, mais aujourd'hui encore, je pense qu'il y a une pertinence et Lyon a tout ce qu'il faut pour accueillir et pour avoir toujours une télévision locale qui existe sur son territoire.
La situation du côté du Progrès, le Dauphiné Libéré, enfin le groupe Ebrad en général, donc on dit 400 postes qui vont être supprimés. Le problème est un petit peu différent pour cette presse quotidienne régionale.
Il y a le problème d'une presse écrite qui est concernée évidemment par cette transformation, cette mutation du numérique, digitale, une diffusion, je dirais, papier, oui, qui baisse d'année en année, mais ça depuis des décennies. Il faut arriver à trouver un équilibre malgré cette érosion de la diffusion. Alors, ce qui est quand même une force, c'est que ce sont des médias qui dépendent pas uniquement de la publicité. Les abonnements, les ventes de numéros, c'est quand même important. C'est un autre cas de figure. Mais là aussi,
la menace, elle vient de l'IA apparemment. Hein. C'est cette intelligence artificielle dont on fait tout feu tout flamme en ce moment. Et du côté de la presse aussi, est-ce que l'IA va remplacer les journalistes demain?
Pour moi, non. Faut prendre l'IA comme un outil qui peut être un formidable outil pour des tâches sur lesquelles, je dirais, la valeur ajoutée d'un journaliste est pas énorme, mais pour moi c'est jamais une IA qui fera une enquête, qui fera un reportage, qui fera un portrait fouillé de quelqu'un. Voilà, pour moi l'IA ne peut pas remplacer le travail au quotidien d'un journaliste.
Apparemment, ce qui est dit là, c'est que ce sont les secrétaires de rédaction qui seraient plus ou moins remplacés par l'IA. Moi je croyais que le secrétaire de rédaction c'était justement celui qui validait, qui disait oui, voilà, ce qui a été écrit est conforme.
Oui, alors qui valide, qui voit s'il y a des problèmes de mise en page, s'il y a des fautes. Ça reste une tâche importante. Je sais que voilà, dans certains médias, il n'y a plus de relecture. Nous, par exemple, dans Décideur, il y a toujours un système de relecture, mais je sais que certains médias, oui, s'en passent aujourd'hui. C'est dommage, hein, parce que voilà, il y a parfois plus de fautes, etc. Mais encore une fois, voilà, je pense qu'il faut prendre l'IA comme un pouvoir être un formidable outil, mais pas un remplaçant des journalistes.
Jean-Pierre Vacher, vous présidez le Club de la Presse de Lyon. Ça sert à quoi un Club de la Presse dans une ville comme Lyon?
L'idée d'un Club de la Presse qui fêtera d'ici la fin de cette année ses 50 ans, c'est de fédérer tous les journalistes, mais aussi au-delà des journalistes, je dirais tout l'écosystème des médias. Hein, donc oui, les médias en tant que tels, de travailler avec les écoles de formation journalistique, et puis de se pencher sur des sujets comme l'éducation aux médias et à l'information, hein, dont on a fait une de nos priorités depuis quelques années.
Et ce jeudi, il y a une journée spéciale d'ailleurs, EMI, les assises voilà. De l'EMI, donc qui se passe au musée Gadagne. Est-ce quoi s'expliquer le rôle des médias dans notre société? Je dirais que monsieur tout le monde, il n'a pas forcément cette perception.
C'est d'expliquer effectivement ce que c'est qu'un média, comment ça fonctionne, comment on travaille, comment les journalistes travaillent, quelles sont leurs contraintes et quel est leur rôle aussi. Hein. Je parlais de la relation média-démocratie, voilà, comment les deux sont essentiels. C'est d'expliquer ça, et puis c'est d'avoir des débats aussi sur des sujets comme l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Faut-il les interdire ou les apprivoiser, hein. C'est un des thèmes de table ronde qui se dérouleront jeudi. IA, fake news, le journalisme est-il dépassé, point d'interrogation, et ce sera une table ronde. Donc vraiment l'idée chaque année, début juillet, c'est voilà, qu'on essaye de rassembler un peu tout le monde, tout l'écosystème, les enseignants aussi, parce qu'ils sont les premiers concernés, et puis voilà, tous ceux qui sont préoccupés par l'importance des médias, de l'information, la place de l'information dans notre vie de tous les jours, et puis essayer aussi de faire en sorte que les jeunes générations continuent de lire ou de consulter ou de s'intéresser aux médias, à l'information en tant que telle, et ne vivent pas uniquement postes sur des réseaux sociaux. Il y a un rôle essentiel à la bonne respiration de la démocratie des médias, et c'est pour ça qu'on organise depuis 2023 chaque année ces assises, et puis tout au long de l'année qu'on participe à des formations, qu'on forme des journalistes à l'EMI pour qu'ils puissent s'interdire dans des écoles, dans des un peu partout, dans des entreprises, vraiment sur cette importance des médias aujourd'hui.
Merci Jean-Pierre Vacher, directeur de Lyon Décideur et président du Club de la presse de Lyon, dont je suis aussi administrateur, pour que tout cela soit très transparent au niveau de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup.
Et on apprécie votre implication. Merci Gérald.
Une nouvelle ère s'ouvre officiellement à l'Olympique lyonnais, quelques jours après le rachat définitif du club. La nouvelle patronne Michelle Kang est sortie du silence ce mercredi. Elle s'est adressée directement aux supporters dans une lettre ouverte. Tournez la page et regardez devant. C'est tout le sens du message de la femme d'affaires américaine, bien décidée à clore des mois d'incertitude administrative et financière. Dans cette lettre numérique, Michelle Kang pose les bases de son projet et tient d'abord à remercier le public du Groupama Stadium pour sa résilience, une fidélité qui a permis, selon ses mots, de sauver l'Olympique lyonnais, non pas une mais deux fois en moins d'un an. Désormais, l'organigramme est stabilisé et le cap est fixé sur le plan sportif. La nouvelle bosse de l'Olympique lyonnais promet d'instaurer une culture de la haute performance avec un objectif clair, ramener le club rhodanien parmi l'élite européenne, de quoi aborder la préparation de la nouvelle saison avec beaucoup plus de sérénité. C'est un duo de choc pour un monument du théâtre français. Ce 1er juillet, Thomas Joly, le chef d'orchestre des cérémonies des JO de Paris 2024, et la metteuse en scène Laetitia Guédon ont été nommés à la tête du prestigieux Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Après un an de suspense, ils succèdent à Jean Bellorini le 1er janvier 2027. C'est un tournant historique. Laetitia Guédon, actuelle directrice des Plateaux Sauvages à Paris, devient la toute première femme à diriger le TNP. Ensemble, le binôme propose un projet baptisé Monde Ouvert pour démocratiser encore un peu plus un théâtre qui affiche déjà une santé de fer avec 90% de fréquentation. Un vent de fraîcheur salué par le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, même si le duo devra composer avec un défi de taille, faire briller la culture dans un contexte budgétaire particulièrement austère. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Excellente journée.